Voilà, on retrouve nos avocats, Maître Bonnet et Maître Villesèche-Sauron. On parle donc de la rupture du contrat de travail. On parlait à l'instant des prud'hommes. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être peur souvent d'aller au prud'homme. Une histoire de coût, évidemment, avec un avocat. Il se dit, oh là là, je vais en avoir pour beaucoup, j'ai peur d'y aller. Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, cette peur-là, on ne la rencontre pas seulement en matière prud'homale. Au jour d'aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de personnes qui redoute de pousser la porte d'un avocat en se disant « Oh là là, combien ça va me coûter ?» Je crois qu'il faut d'abord se renseigner. Il faut déjà savoir que l'avocat est là, pas pour faire uniquement de la procédure, mais il a déjà un rôle et une mission de conseil, d'apprécier l'opportunité d'une action en justice. Si la personne n'a pas les ressources suffisantes, il faut voir déjà si elle peut prétendre ou non à l'aide juridictionnelle, si elle a un contrat de protection juridique. Beaucoup de personnes ont ces contrats de protection
dans
juridique.
Les contrats d'assurance,
voilà, c'est vraiment de très très bons contrats. Lorsqu'une personne gagne au prud'homme, il faut savoir que l'avocat va solliciter la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui est destinée à vous rembourser cas une bonne partie des frais d'avocat
si vous
avez exposé. Si vous gagnez. L'avocat, par définition, par sa mission de conseil, alors je ne dis pas, il ne voit pas dans une boule de cri, mais il est là pour apprécier de manière très sérieuse les chances de succès de l'action en justice. Donc, plutôt que d'avoir peur, d'abord renseignez-vous, poussez de nos cabinets. N'hésitez pas à parler de cette inquiétude au niveau des honoraires. Je crois que chaque professionnel en la matière saura bien vous renseigner, oui.
Et puis il y a la, enfin on veut dire, on n'est peut-être pas obligé, comme on dit dans toutes nos émissions, d'aller au prud'homme. Si on juge que ça peut être réglé plus simplement, aussi ça, et ça peut coûter moins cher là évidemment.
Alors, bien sûr, deux observations. D'abord aussi, mon confrère disait que le premier devoir c'est le conseil, mais le deuxième réflexe de l'avocat, c'est souvent de prendre contact avec la partie adverse et de voir si une solution transactionnelle est possible. Je voudrais rajouter également deux points sur ce problème de coût. C'est d'abord aussi, si vraiment vous avez des très très faibles moyens, vous avez la possibilité, parce que l'Ordre des avocats organise des consultations gratuites. Donc vous pouvez déjà avoir un premier conseil, une première orientation, savoir si c'est vraiment quelque chose qui nécessite une analyse beaucoup plus approfondie, parce que ça vaut éventuellement le coup, soit parce que au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable, et le premier conseil de la consultation gratuite est là pour vous orienter dans ce sens. Deuxième élément, il faut vous dire que l'avocat, lorsqu'il prend un dossier, il est tenu de faire une convention d'honoraires. C'est-à-dire qu'il va déterminer avec vous les conditions de sa prestation, c'est-à-dire financière, et vous saurez exactement ce que vous allez payer, bien sûr.
Une sorte de devis,
financier qui est signé entre les parties, et bien évidemment, si vous bénéficiez de l'aide, de l'article 700 du Code de procédure civile, eh bien viendra en déduction des honoraires que vous aurez payés à votre avocat.
Oui. Voilà. Bon, c'est bien de le préciser. Hein. Alors, une autre question, là, un auditeur qui nous demande la prime de licenciement. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Suivant les ruptures de contrat de travail, on peut avoir droit à une prime. Enfin, comment est calculée cette prime? Est-ce que l'employé peut la contester, peut dire c'est pas assez? Enfin, je pense pas que ça soit dans le sens c'est trop, dans le sens c'est pas assez, ou à quoi ai-je droit? Qu'est-ce que c'est, en fait, cette prime de licenciement?
Alors, nous, on parle pas, c'est vrai, de prime de licenciement, on parle donc d'indemnité de licenciement, puisqu'effectivement tout salarié qui est licencié, sauf cas de faute grave ou faute lourde, a droit en principe donc à une indemnité de licenciement. Il y a des conditions effectivement d'ancienneté, il faut avoir au minimum un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, le code du travail en fixe le montant. Par exemple, le principe légal, c'est un cinquième de mois par année d'ancienneté. Il y a des indemnités supplémentaires qui se rajoutent au-delà de la dixième ancienneté. Ça, c'est le Code du travail qui le prévoit. Et également, le Code du travail prévoit qu'une convention collective peut être encore plus favorable aux salariés. Donc le réflexe effectivement du praticien sera d'examiner la convention collective du salarié pour voir si celle-ci est encore plus avantageuse que le code du travail. Donc l'indemnité de licenciement, sous les réserves que je vous ai données, est due, donc, c'est-à-dire dans pratiquement beaucoup de cas, sauf cas essentiels hein, du cas disciplinaire.
Voilà, donc voilà, on a bien compris. Donc voilà, on dit prime en parenthèse, mais c'est indemnité, hein, le vrai nom. Voilà, c'est
oui,
indemnité,
on parle d'indemnité,
indemnité de licenciement. Alors, une autre question, peut-être, peut-on être licencié quand on a un CDD, dit-on. Enfin,
eh bien, je crois que j'ai déjà répondu. Oui. Alors, il peut y avoir un licenciement. Enfin, en tout cas, c'est un cas un peu exceptionnel. Normalement, le CDD prend fin à la date à laquelle
c'est marqué sur le contrat.
Voilà, c'est marqué sur le contrat. Il peut y avoir des licenciements pour faute grave, dans des cas très particuliers. Mais en principe, il n'y a pas de licenciement pour la fin du contrat, sauf, je vous dis, faute grave ou faute lourde du salarié qui va faire que la rupture du contrat de travail va intervenir avant le délai mentionné dans le contrat à durée déterminée.
Voilà, alors on peut peut-être revenir sur ces différentes causes de rupture. On parlait de faute lourde tout à l'heure. Il y avait une différence, faute grave, faute lourde. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus?
Oui. Alors très vaguement,
parce que bien évidemment,
on n'a pas le temps de tout expliquer. La faute grave est caractérisée. On parle de faute grave lorsqu'effectivement le comportement du salarié est tel que son maintien dans l'entreprise s'avère impossible. La faute lourde, c'est une faute d'une gravité encore supérieure où on peut dire qu'on va arriver à un comportement complètement intentionnel du salarié dans une intention de nuire à l'employeur. Les quatre fautes lourdes sont beaucoup moins importants quand même que les cas de faute grave.
Régulièrement,
on voit des cas de faute grave.
Oui,
faute lourde,
sûr, là, c'est vraiment,
peu d'employeurs aussi, je dirais. Le temps et le risque, puisque déjà, il n'y a pas l'indemnité de prêt. Le salarié se retrouve sans aucune indemnité. Les congés payés ne sont pas dus.
Alors, il y a eu justement un revirement de jurisprudence que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. La Cour de cassation, alors que jusqu'à présent, lorsque vous aviez un licenciement pour faute lourde, entraînait effectivement vous n'aviez pas la possibilité de bénéficier de la moindre indemnité de licenciement et de d'indemnité de congés payés. Et là, revirement depuis quelques mois de la Cour de cassation qui vient dire que finalement, même en cas de faute lourde, vous n'avez pas droit aux autres indemnités, mais l'indemnité de congé payé reste acquise au salarié. Ce qui est un changement qui est soudain et surtout qui est un revirement, alors que la jurisprudence a été établie depuis X années.
Oui,
je crois que depuis que je travaillais dans ce domaine, j'avais toujours vu que la faute lourde entraînait le rejet de toute indemnité, y compris de congé payé.
Et ensuite, nous attendons de voir que les tribunaux et les cours d'appel vont...
Oui,
rendre des premières décisions, puisqu'on peut avoir même des cours d'appel qui font parfois de la résistance aux arrêts rendus cour de cassation. Donc si les cours d'appel font de la résistance, on peut aussi avoir... On surveille toujours qu'un revirement de jurisprudence soit réitéré.
Voilà. Alors, on a parlé un peu on n'a pas parlé. Alors, le licenciement économique, justement, qu'est-ce qui peut justifier un licenciement économique dans une petite et moyenne entreprise, nous dit-on ?
Une difficulté économique, par définition. Par licenciement économique, ce qu'il ne faut surtout pas entendre du côté de l'employeur, c'est dire « Ah bah tiens, mon chiffre d'affaires a un petit peu baissé, et comme mon chiffre d'affaires a baissé, je suis dans une situation de licenciement économique, je suis dans une situation de difficulté économique. » C'est pas ça, les tribunaux le rappellent aussi, le licenciement ne doit pas être le moyen tout de suite rapide de faire une économie pour compenser une simple situation de crise. On a beaucoup d'entreprises malheureusement qui en traversent aujourd'hui. Il faut vraiment démontrer qu'il y a une difficulté économique telle que l'on doit envisager le licenciement économique, sachant que les tribunaux demandent justement à l'employeur de démontrer.
Voilà, c'est à l'employeur de prouver, bien évidemment.
Bilan à l'appui, ou qu'il y a, voilà. Si on est dans une entreprise qui est beaucoup plus importante, si on parle de groupe, il faut aussi que la difficulté économique soit caractérisée, établie au niveau du groupe entier.
Voilà, donc voilà, différents. Voilà, c'est très encadré en plus, hein, ça.
C'est très encadré, mais la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a aussi d'autres domaines. Par exemple, vous êtes racheté par une entreprise, vous étiez dans une petite entreprise et elle est rachetée par une autre entreprise qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres. Effectivement, il y a une réorganisation de l'entreprise et il y a effectivement votre poste qui est tout simplement terminé dans votre entreprise parce que finalement, le regroupement de vos fonctions sont faites dans l'entreprise qui devient l'entreprise mère. Là, effectivement, ça peut faire partie de ce qu'on appelle le licenciement économique. Après, effectivement, c'est à l'employeur d'abord, puis après à l'avocat qui est saisi d'un dossier de ce type, de vérifier si, effectivement, on est vraiment dans la cessation du poste et si ça peut rentrer dans la définition du licenciement économique. Le licenciement économique est un des licenciements les plus complexes qui nécessitent vraiment une expertise par un professionnel, à la fois pour l'employeur, bien évidemment, mais aussi pour le salarié lorsqu'il entend contester ce licenciement.
D'accord. Toujours avec Maître Vilsèche-Sauron et Maître Bonnet, alors voilà une autre sorte de licenciement, peut-être en tout cas, enfin c'est une question, je vous la pose, un auditeur, je suis en contrat CDI depuis de nombreuses années dans une entreprise, j'ai envie de quitter de moi-même cette entreprise, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi? Peut-être qu'on peut parler de la rupture conventionnelle à ce moment-là, alors, ou de qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut...
Du côté du salarié, bien évidemment, il va tenter d'obtenir une rupture conventionnelle. Pourquoi ? Parce que la rupture conventionnelle garantit aux salariés une indemnité qui est au minimum celle prévue par le Code du travail et par sa convention collective. Pour autant, l'employeur n'est pas obligé d'y satisfaire. Pourquoi ? Parce que l'employeur, il peut être content de ce salarié et en gros penser, tu as envie de partir, c'est très bien, mais tu assumes. Je ne vais pas moi payer en plus pour toi qui souhaites me quitter alors que moi je suis par exemple content de tes services. On peut aussi avoir des cas de rupture conventionnelle où c'est un petit peu une volonté des deux et on va effectivement signer cette rupture conventionnelle qui a un autre avantage pour le salarié, c'est qu'il perçoit aussi immédiatement son indemnité, son indemnité chômage, ses ACEDIC.
Et il permet aussi de conserver ce qu'on appelait le droit individuel à la formation, qui n'existe plus, c'est la convention individuelle de formation personnalisée. Et effectivement, là, ça vous permet de continuer. Ça peut aussi permettre de rebondir. Vous saisissez vous utilisez cette rupture amiable et vous pouvez continuer à bénéficier d'une formation, par exemple en anglais, parce que vous savez que vous allez briguer un autre emploi où il vous faut effectivement absolument une formation en anglais. Mais comme me disait ma consoeur, c'est vrai que c'est peut-être avantageux pour le salarié, mais c'est amiable, donc c'est à l'accord des deux parties.
Oui. Voilà, donc ça s'appelle, le nom exact, c'est
rupture conventionnelle.
Voilà, pour indiquer à notre auditeur ce qui est peut-être intéressant.
Il y a un entretien pour, en gros, on fait un entretien, ensuite il y a
on peut se faire, assister par un avocat ? Non, on n'a peut-être pas besoin dans ce cas-là, puisque c'est amiable.
Alors, vous pouvez toujours consulter un avocat avant,
mais pas...
Alors, effectivement, le jour de l'entretien, vous n'avez pas droit à votre avocat, j'allais dire à vos côtés, mais au contraire, il est prévu dans la loi sur la convention collective, la rupture conventionnelle, pardon, que il vous ait nécessairement laissé un délai suffisant pour vous permettre de vous renseigner. Et là, bien évidemment, allez voir un avocat, allez voir un professionnel, parce qu'une consultation auprès d'un avocat mérite parfois à l'avantage de vous dire oui, là c'est bien, là ça n'est pas bien, vous pouvez accepter ou vous pouvez négocier encore un petit peu parce que parfois le rapport de force n'est pas le même.
Par contre, voilà, juste pour finir sur la rupture conventionnelle, il faut rassurer par exemple le salarié, mais également l'employeur. Les documents sont ensuite transmis à l'administration qui opère une sorte de contrôle de validité, qui opère un contrôle de validité de la rupture, ne serait-ce que pour calculer et vérifier que le montant qui a été payé correspond au minima, à l'indemnité de licenciement.
Alors peut-être, juste avant une nouvelle pause, parler de la démission maintenant. Alors imaginons ces deux personnes ne s'entendent pas, l'employeur. On peut toujours démissionner, mais là oui, j'imagine qu'on a beaucoup moins d'indemnités. Comment ça
on
se passe
pas. Ah, on n'en a pas.
D'accord.
Indemnité, bon, c'est congé payé mais en tout cas, l'indemnité de licenciement, non, il n'y en a pas de définition, pas, puisque c'est de la démission.
Et vous ne bénéficiez pas de l'allocation chômage
Il y a des différés, oui.
Ah oui, alors.
Il y a
alors,
une période de différé, oui.
D'accord. Et alors, la démission, ça se passe comment? Il faut faire une lettre à l'employeur? Il faut. C'est ça, c'est.
Ah ben voilà, le principe, c'est effectivement de faire une lettre que l'on peut remettre soit en main propre, sachant qu'on en garde un double avec la signature de votre employeur pour être sûr de la date à laquelle vous l'avez remise, parce que malgré tout, même si vous démissionnez, vous n'avez pas à partir du jour au lendemain avez un minimum de préavis qui peut ne pas être très important, ça dépend de votre poste de travail, mais qui peut aller jusqu'à un mois. Donc c'est important parfois de savoir à quelle date vous donnez votre date de démission, parce que si votre employeur souhaite que vous fassiez votre préavis et que vous avez trouvé un autre emploi par la suite, il faut savoir quels sont votre emploi du temps et votre chronologie là-dessus. Et puis effectivement, vous pouvez l'envoyer par lettre commandée avec accusé de réception si vous ne souhaitez pas rencontrer votre employeur en personne et que vous préférez qu'il reçoive ce courrier, avec la garantie de la date exacte à laquelle il la reçoit, puisque vous avez un accusé de réception qui dit que, par exemple, le 1er mars 2016, votre employeur a été informé de votre démission et que par conséquent, votre préavis va commencer à partir de cette date-là.
Il y a une autre technique, mais peut-être pour justement vous montrer que le droit social, c'est quelque chose de complexe. La jurisprudence a créé ce qu'on appelle une sorte de prise d'acte de rupture. On peut imaginer la situation d'un salarié qui doit souffrir, par exemple, d'ordre abusif ou de non-respect du contrat de travail par l'employeur et qui va partir. Par exemple, claquer la porte et partir, on va lui conseiller, si effectivement il a été, je dirais, dans une sorte de contrainte morale de partir, ou parce que véritablement ses droits de salarié n'étaient pas respectés, on va lui conseiller effectivement de faire une lettre à l'employeur en disant « je vous demande de prendre acte de ma rupture, mais que je vous impute à vous ». Employeur, et ça revient, alors attention, on le fait pas comme ça de soi-même, c'est une autre modalité de rupture, mais qui est plus à ce jour jurisprudentielle que contenue dans les textes de droit.